Go, la review d'Ipress JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Le meilleur podcast du monde, c'est son papa qui l'a dit.
Bienvenue tout le monde à la revue de presse JV. Nous sommes le mercredi 7 février 2018. Le mercredi, les habitués ne le savent que trop bien, c'est le jour de la rubrique 100% Japon avec une bien belle rubrique pleine de news qui ravira tous les amateurs du gaming venus du pays du soleil levant. Un gros programme encore ce matin, mais oui, je le dis tous les jours, un gros programme. Mais c'est vrai, il y a un gros programme, rendez-vous compte, 15, 20, 25 minutes parfois de news jeux vidéo pour se faire caresser les oreilles, c'est quand même pas beau. Bref, quoi que vous fassiez, j'espère que cette émission vous donnera du panache ce matin et sans plus tarder, on va attaquer tout de suite ce programme bien chargé. Oui, je l'ai encore dit, excusez-moi, j'en radote, vous savez, à nos âges, c'est pas facile. Capcom Vancouver perd 30% de son effectif et va se concentrer sur Dead Rising. C'est GameCult qui nous dit ça, puisqu'on nous indique que quelques tweets d'employés et un rapport du site Kotaku ont mis en lumière des secousses significatives du côté de Capcom Vancouver, victime d'une importante, nous dit-on, vague de licenciements consécutives à l'annulation d'un projet non annoncé. Encore au stade du prototype, ce dernier était envisagé comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne situé dans un New York alternatif. Et donc, on nous dit qu'en plus de cette annulation, deux sources de Kotaku ont indiqué qu'une cinquantaine de personnes ont perdu leur travail dans le cadre de cette restructuration dont va bénéficier le prochain volet de Dead Rising, lequel était apparemment trop volumineux par rapport au nombre de développeurs chargés de s'en occuper jusqu'ici. Développeur de la franchise depuis le second épisode, Capcom Vancouver n'aura donc manifestement pas l'opportunité de tenter quelque chose de nouveau, quand bien même Dead Rising 4 a déçu aussi bien sur le plan critique que commercial. Cet épisode ayant mis un an pour atteindre péniblement le million d'exemplaires. Et je fais une parenthèse, c'est un sacré exploit, vu la qualité du jeu. Bref, on peut lire aussi sur ce papier de GameCult qu'un représentant de Capcom a confirmé au site Games Industry que la restructuration a coûté 30% de son effectif au studio. Donc l'équipe continue de supporter la sortie de Puzzle Fighter sur mobile, donc la version hyper moche, je tiens à le préciser aussi, et se consacre à sa principale franchise Dead Rising. Bon, on leur souhaite bien du courage, et on espère aussi que la franchise Dead Rising reviendra au sommet, puisqu'il faut quand même se rappeler que les deux premiers épisodes étaient quand même vachement bien. Breaking news, comme disent les professionnels de l'information, ça vient de tomber. Microsoft, met PUBG, PUBG, PlayerUnknown's Battleground, le jeu de Battle Royale phénomène, en bundle avec la Xbox One S. Ce sera à partir du 20 février pour la modique somme de 300€. La console Xbox One S sera donc dotée de son beau disque dur d'un teraoctet. Un code de téléchargement sera inclus donc pour récupérer PUBG, le pack contiendra également une manette bien sûr, 14 jours d'essai au Xbox Live Gold, et ce pour avoir accès à toutes les fonctionnalités en ligne, ce qui pour PUBG est quand même je pense un minimum. Il y aura aussi un mois d'essai inclus avec 150 jeux du Xbox Game Pass service, on en a déjà parlé, qui va inclure désormais toutes les nouveautés publiées par Microsoft Studios. Donc c'est une grosse offre quand même là, c'est très agressif ce que fait Microsoft, étant en position effectivement pas forcément reluisante depuis quelques années, face à la PlayStation 4 et maintenant cette Switch qui n'en finit plus de battre des records. C'est très agressif, c'est très intéressant, c'est bon pour le marché. Donc en tout cas, si vous hésitiez à passer à la caisse pour une Xbox One et que vous êtes raide, mordu, dingue de PUBG, mais que vous avez envie d'y jouer dans le salon tranquillement à la cool, je dirais que ça peut faire réfléchir. La mise à jour 5.50 nommée Keiji de la PlayStation 4 démarre dans sa version bêta, a démarré même depuis hier, et les nouveautés ont été détaillées par Sony On trouve des résumés un peu partout, et là j'ai choisi Gameblog, via un papier de Nourdine Nini, qui nous explique dans le détail ce qu'il se passe. Bon, grosso modo, il y a une gestion du temps pour gérer le temps de jeu des enfants, donc c'est une sorte de contrôle parental, enfin c'est même pas une sorte, c'est un contrôle parental du temps de jeu pour les enfants, avec un petit minuteur qui va bien, des fonds d'écran personnalisés qui seront possibles, ça on pouvait le faire déjà sur PlayStation 3, mais voilà, ça a mis du temps à venir sur PS4, on va pouvoir le faire via un device USB. Télécharger ses photos, bref, ce qu'on veut. La bibliothèque s'améliore encore avec de nouveaux onglets plus détaillés, beaucoup plus de raccourcis très pratiques. On peut aussi désormais supprimer des anciennes notifications, et ça, j'ai envie de dire, c'est pas dommage. Il y a aussi un mode multi-échantillonnage sur les PlayStation 4 Pro ou multi-sampling. Sony nous dit que ce mode permet de profiter d'une expérience visuelle améliorée avec certains jeux PlayStation 4 sur des téléviseurs HD, donc 1080p au moins. Et grâce à ce mode multi-échantillonnage, les jeux s'affichent à une résolution supérieure, puis sont limités pour correspondre à la résolution du téléviseur HD, ce qui permet aux possesseurs de PS4 Pro de bénéficier d'une image plus nette, même si leur PS4 Pro n'est pas connecté à un écran 4K. Bon, voilà, écoutez, c'est pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Pour tous les détails, je vous renvoie sur toute la batterie d'articles, tous les sites y ont droit, je sais même pas si gala.fr ne va pas en parler. C'est vrai que déjà, je trouve que l'interface de la PlayStation 4 est vraiment très réussie, et ces petits ajouts à chaque fois, j'ai envie de dire, c'est quelques petites cerises à chaque fois sur le gâteau, et c'est toujours bon à prendre, finalement. Et il est temps désormais de passer à notre rubrique 100% Japon, qui est, vous l'aurez deviné, je le répète à nouveau, bien chargée, bien copieuse, bien garnie. Allez, c'est parti. C'est le 31 mai que sera lancé sur l'archipel Liar Princess and the Blind Prince. Nous l'avons appris sur Gematsu. Alors, qu'est-ce que Liar Princess and the Blind Prince ? C'est un jeu d'action-aventure en 2D vue de profil signé Nippon Ichi. Ça sortira donc le 31 mai sur PlayStation 4, Switch et PlayStation Vita. Alors le but de ce jeu est de guider un prince qui a été aveuglé et de le guider à travers une forêt afin de retrouver une sorcière, sachant que la princesse qui guide ce prince est également la personne qui, sous sa forme de loup, a griffé par accident les yeux de ce même prince. Et oui, puisque l'histoire en fait nous raconte donc le malheur de ce prince qui, attiré par la voix enchanteresse de cette espèce de créature loup dans la forêt, s'est retrouvé donc aveugle après une altercation qui visiblement n'est pas quand même du fait de ce loup princesse, j'ai envie de l'appeler. C'est très beau, c'est en 2D, c'est magnifique, je trouve c'est sur les tons très sombres, les tons sépia, avec un style vraiment japonais bien affirmé. Il me tarde d'en voir plus, ne serait-ce que pour le gameplay, puisque que ce soit sous sa forme de princesse ou de loup, de loup-garou, que sais-je, on n'a pas encore tous les détails sur le scénario du jeu. Il y aura donc des capacités particulières à votre personnage pour se défaire donc des ennemis, mais aussi des puzzles qu'abrite cette sombre forêt. En tout cas, voilà, ça approche, ce sera fin mai, et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Jumputy Heroes a été annoncé sur mobile, et là, c'est Shonen Games. .com bien sûr, qui nous en parle. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh ben c'est un puzzle game RPG free-to-play, attention donc sur mobile, hélas, en tout cas de mon point de vue, qui est là pour fêter les 50 ans du Jump. On y sélectionne un héros et jusqu'à 3 personnages de soutien. On y retrouve des héros de Dragon Ball Z, de One Piece, de Yu Yu Hakusho, de Slam Dunk, etc. Bref, toutes les stars du Jump depuis une bonne cinquantaine d'années, bien sûr. Une jauge d'invocation est également là, qui se remplit au fil des coups et qui permet d'être déclenché une fois rempli. Par exemple, si vous avez un personnage de Dragon Ball Z, nous dit-on, vous pourrez invoquer Shenron. Alors à savoir si ce free-to-play va arriver chez nous, je n'y crois pas du tout, puisque là, au niveau des licences, la tétrachée de personnages, dont certains qui sont totalement inconnus par chez nous, je pense pas que ça arrivera, mais en tout cas, bon, ceux qui jouent déjà en import à des jeux, à des free-to-play mobiles japonais, seront tout à fait se débrouiller pour le récupérer. Le phénomène Puzzle and Dragons fait le plein de projets en 2018 et une fois n'est pas coutume dans cette rubrique 100% Japon, c'est la première fois, je vais citer un site français qui n'est autre que GameCult, hein, une fois encore, Puzzle and Dragons. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Puzzle and Dragons, c'était vraiment le phénomène d'il y a quelques années au Japon, le titre de tous les records sur mobile, et puis il y a eu aussi des versions console, une version 3DS, une version même avec des personnages de Nintendo, de Mario. Et donc GameCult nous dit que subissant la concurrence d'autres RPG mobiles comme Monster Strike, Fate, Grand Order, Dragon Ball Z, Dokkan Battle, Fire Emblem, Heroes et Grand Blue Fantasy, ainsi que celle de Pokémon Go et Disney Tsum Tsum, le phénomène Puzzle & Dragons tire un peu la langue au moment de fêter son 6e anniversaire. Alors on nous précise hein, qu'avec un chiffre d'affaires de 674 millions d'euros, et un bénéfice net de 162 millions d'euros aussi, pour l'année 2017, Gung Ho Online Entertainment n'est certainement pas en crise, mais impossible pour la direction d'ignorer le déclin flagrant amorcé par la compagnie depuis son bénéfice record de 452 millions d'euros en 2014. Ce même bénéfice net hein, affiche ensuite 317 millions en 2015, 204 millions en 2016 et donc désormais 162 millions pour l'année 2017. Donc l'heure est venue de déployer ce qu'ils appellent le Puzzle and Dragons Project 2018 avec un grand plan de revitalisation qui s'étalera aussi bien dans le domaine de l'e-sport que du manga, de l'animation et des jouets. Tout un programme, je rappelle que Puzzle and Dragon est une sorte de puzzle game comme son nom l'indique, mais où les actions déclenchent des attaques, il faut gérer son équipe de dragons, il y a du gacha, bref. C'est un jeu passionnant, moi je l'avais découvert à l'époque grâce à la rédaction de No Life, à l'époque où je collaborais avec No Life, et j'ai vraiment... ce jeu m'a tenu des mois et des mois durant, mais voilà, cela demande beaucoup de temps. C'est un jeu passionnant, si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à vous y frotter. Mais donc on nous dit qu'en dehors de ce Puzzle & Dragons, hein, l'éditeur mise gros sur son prochain free-to-play destiné au système iOS et Android, hein, et qui se nomme Calcio Fantasista, et la société a également profité d'un bon lancement asiatique de Ragnarok M pour compenser en partie hein, la baisse de son puzzle game légendaire. Le groupe possède les studios Acquire, Game Arts, Grasshopper Manufacture, attention à le studio de Suda51, et Gravity. Mais ces équipes, hein, nous dit-on, travaillent finalement le plus souvent pour le compte d'autres éditeurs. Acquire développe par exemple hein, Project Octopath Traveler, d'ailleurs on en parle dès la news d'après, donc ça c'est pour le compte de Square Enix hein, bien sûr, tandis que Grasshopper Manufacture prépare Travis Strike Again No More Heroes avec la complicité de Nintendo, qui est le jeu que j'attends le plus sur Switch actuellement. Ça je pense que ceux qui me suivent un petit peu le savent. Donc voilà un petit peu, Puzzle & Dragons est toujours vivant, le déclin, si on peut vraiment parler de déclin, est tout naturel, de toute façon on ne peut pas rester un phénomène ad vitam aeternam. Je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite des événements. Project Octopath Traveler, on a des nouvelles infos via Famitsu, alors ce RPG old school de Square Enix avec sa 2D HD, tout ça prévu sur Switch. Et dans Famitsu, nous en avons appris un peu plus, hein, puisque le producteur du jeu, Masashi Takahashi hein, de Square Enix, et le réalisateur Keisuke Miyoshi d'Acquire hein, se sont réunis la semaine dernière pour discuter de leur projet de ce RPG au look rétro, mais également moderne, avec ses sprites nous renvoyant au vieux Final Fantasy, au vieux Romancing Saga, bref, que du bonheur hein, pour les amateurs. On a appris que le thème du jeu, donc le thème principal hein, d'Octopath Traveler, est le voyage, et que le monde peut être exploré avec l'un des 8 personnages présents dans le casting. Le projet hein, a été initié par Monsieur Takahashi et le producteur Tomoya Asano, qui a dirigé notamment la série Bravely Default. Acquire a été choisi comme partenaire de développement grâce à leur travail sur le projet What Did I Do to Deserve It, My Lord, mettant en scène leur prouesse du pixel art. Monsieur Miyoshi hein, se souvient que messieurs Takahashi et Asano se sont réunis pour se poser cette question: à quoi ressemblerait un pixel art rehaussé, adapté à la technologie moderne au lieu d'un pixel art classique? Donc ces messieurs nous expliquent hein, qu'il a fallu du temps pour parfaire ce look HD 2D. Leurs premiers essais ne comportaient pas assez de profondeur de vue et finalement c'était pas aussi percutant qu'ils l'espéraient. Sur un autre essai, ils sont allés trop loin sur la résolution et la saturation de l'image, perdant là carrément l'attrait hein, de ce que peut être un beau pixel art. Donc l'équilibre a été difficile, mais ils estiment être parvenus à un résultat satisfaisant. Hein, c'est pas moi qui vais les contredire. Côté personnage, hein, donc il a été décidé d'avoir 4 personnages masculins et 4 personnages féminins. afin d'avoir des expériences différentes hein, avec l'intégralité de ce casting. Et donc chaque héros, chaque héroïne aura son scénario bien à lui. Tous les personnages, hein, tous ces personnages-là ont des classes différentes, nous dit-on, et plus d'infos seront bientôt dévoilées à ce sujet. Mais Monsieur Takahashi précise quand même que les classes hein, de tous ces personnages, donc leurs fonctions, se rapprochent d'un certain aspect réaliste, hein, est basé sur ce qu'on pouvait trouver dans l'Europe médiévale. Et les différentes actions des personnages ont été influencées et créées par rapport justement à ces classes. Pour plus, entre guillemets, de réalisme. Alors dans la démo hein, sur Switch, on a deux personnages, hein, Olberic et Primrose, hein, et donc ils ont été choisis pour cette démo, nous dit-on, car leurs histoires débutent dans le même endroit, à savoir hein, ce fameux village. Je vais pas vous en dire plus hein, si vous n'avez pas essayé le jeu. Les développeurs voulaient hein, que les joueurs puissent découvrir le deuxième personnage après avoir terminé la démo une première fois. C'était bien pratique hein, vu que ces deux personnages trouvent leurs racines dans ce village-là. Et donc pour conclure, que dire de plus beau si ce n'est que Project Octopath Traveler, dont j'attends beaucoup, j'espère ne pas être déçu, hein, sortira simultanément dans le monde entier en 2018 sur Nintendo Switch, sans plus, hélas, de précision. Vivement qu'on ait une date à se mettre sous la quenotte. Moi, je ne sais pas vous, mais ayant une adoration sans borne pour les vieux Final Fantasy, les Romancing Saga, mon dieu, Romancing Saga 3, qu'est-ce que j'aimerais y rejouer dans une version Switch, ce serait merveilleux. J'attends ce jeu avec grande, grande impatience. Les designers de Super Mario Odyssey ont rajouté des pièces supplémentaires dans le jeu par respect pour les testeurs, et c'est Kotaku qui nous apprend ça. Et oui, parce que si vous avez joué, ou si vous jouez encore, hein, bien sûr, à Super Mario Odyssey, vous vous êtes très certainement rendu compte qu'on peut trouver des pièces dans des endroits complètement improbables, très difficiles d'accès, où très souvent on se dit « Non, c'est pas possible, je pourrais pas monter, je ne sais pas, sur ce plafond, escalader ces tours, etc. » Et finalement, avec dextérité, ou parfois coup de bol, hein, on y arrive. Ça a été mon cas, et on peut trouver des tas de pièces dans des endroits vraiment complètement fous. On a l'impression d'aller au-delà des zones de jeu, et il y a toujours des choses à se mettre sous la dent dans Mario Odyssey. Eh bien, sachez que toutes ces pièces qu'on trouve à des endroits complètement foufou viennent des séances de test, puisque lors hein, donc de ces phases de test, hein, nous explique Monsieur Koizumi, hein, donc le producteur de Super Mario Odyssey. On a parlé hein, de ce grand monsieur hier d'ailleurs, à travers le making-of de Super Mario Sunshine sur jeuxvideo.com. Bref, donc Monsieur Koizumi a expliqué récemment le processus hein, de conception derrière toutes ces pièces cachées, puisque au cours du développement, l'équipe donc de débogage, hein, l'équipe de test, arrivait à atteindre des zones complètement inattendues de la part de l'équipe de développement. Et donc, pour les récompenser, pour, et je cite, hein, rendre hommage à cette équipe de test, l'équipe du jeu a placé des pièces un petit peu partout pour que ce soit beaucoup plus gratifiant pour eux et pour les remercier de leur travail. Et surtout, alors là, on part un petit peu sur autre chose, mais Monsieur Koizumi nous révèle enfin que Toad, hein, la tête de champignon de Toad, donc cette grosse boule champignonesque hein, qu'il a sur la tête, dirais-je, n'est pas un chapeau, mais est vraiment sa tête. Donc Toad ne porte pas un chapeau, c'est officiel. Cette forme de champignon, c'est son physique, c'est sa tête, il faut l'accepter comme ça, avec sa différence. Ce cher Toad, il le mérite vraiment. Il le mérite totalement. D'ailleurs, des indices, hein, on en a à tire les rigos. Si vous regardez tous les jeux mettant en scène Toad, que ce soit les Mario ou autres spin-off, quand il doit porter un petit chapeau, c'est toujours par-dessus hein, cette testasse champignonesque. Donc, on avait un petit peu les infos, mais cela est confirmé officiellement par Nintendo. Et je pense que vous dormirez mieux maintenant que cette info a été délivrée, intégrée, ingérée, digérée. Chronicle of Teddy Harmony of Exidus, c'est le nom Wii U, et bon, on va parler de Wii U, de Fighting Teddy 2. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est un jeu qui a été réalisé par mon frère et son comparse de storyboard. Un jeu où j'ai eu la chance de participer à mon petit niveau, divers petits niveaux, voilà, sans en dire plus. Et donc, Chronicle of Teddy sort sur Wii U au Japon. Le jeu est disponible sur PC, sur PlayStation 4, sur Wii U chez nous, sur Xbox j'ai un doute, mais j'imagine que oui. Et il sort enfin au Japon sur Wii U et est donc l'un des derniers titres. Hein, et c'est JapaneseNintendo.com, vous savez, ce site que j'affectionne particulièrement sur l'actu japonaise liée aux machines Nintendo. Le site nous apprend que donc Chronicles of Teddy est l'un des derniers titres pour la console Wii U à sortir au Japon en démat. C'est Arc System Works quand même, hein, le studio derrière Dragon Ball FighterZ, hein, qui va donc publier le jeu au Japon. Il n'y a pas encore de date de sortie, on devrait apprendre la date de sortie là dans les jours qui viennent. Il y a, et ça vous le verrez en cliquant sur le lien en description de cet épisode, un trailer japonais qui pète la classe, voilà. Et ça fait toujours plaisir de voir ce jeu qui moi aussi m'a occupé une grande grande partie de ma vie il y a quelques années de cela, le voir vraiment un teaser japonais comme ça, et ben j'ai envie de vous dire ça claque, voilà, quand on aime le jeu vidéo japonais ça claque toujours. Donc c'est l'un des derniers jeux, voilà, de cette machine que j'affectionne, qui n'a pas marché du tout, mais que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup la Wii U, et donc bah, tout ça fait que, et ben ça fait plaisir de voir cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil et n'hésitez pas à essayer le jeu si vous ne l'avez pas encore fait. Je rappelle que ce jeu en pixel art vu de profil, hein, se revendique de Wonder Boy, se revendique de Zelda 2, se revendique de Shadow of the Beast. Bref, n'hésitez pas à y jeter un petit œil si vous avez l'occasion. Et c'est ainsi que se termine cette rubrique 100% Japon, et on se dirige, hein, comme vous le savez, vers la fin de l'émission. Et il est déjà l'heure de se quitter. Oui, c'est triste, mais vous savez, on se retrouve dès demain matin, un peu avant 7h, sur les mêmes flux, au même endroit, pour une nouvelle revue de presse JV. N'hésitez pas à partager un maximum cette émission, c'est super important de la faire connaître. D'ailleurs, si vous connaissez des gros comptes, hein, Twitter ou Facebook, des gros bonnets, hein, comme on dit à la Cogip, susceptibles de faire connaître un peu plus l'émission, des comptes qui seraient susceptibles d'être intéressés tout simplement par le contenu de la revue de presse JV, n'hésitez pas à partager un max, c'est super important. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage, avec ce froid, on tient le coup, et je vous dis donc à très très vite, c'est-à-dire à demain matin. Allez, bye bye.